Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
Voilà, nous allons ouvrir notre Bible pour cette méditation, ce culte ce matin, et nous allons lire un texte qui se situe dans l'évangile de Jean. Évangile de Jean, et on va prendre ce sujet. J'ai intitulé, si vous voulez le savoir, c'est tout simplement, eh bien, semeur d'espoir et moissonneur de joie. C'est un petit peu ce que nous avons entendu, hein, prophétiquement ce matin. Voilà. Voilà. Alors, donc, on va lire, c'est une des propos de Jésus. Alors, je rappelle, Jean chapitre 4. Et le verset 35. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Car en ceci, ce qu'on dit est vrai, l'un sème, l'autre moissonne. Je vous ai envoyé moissonner où vous n'avez pas travaillé, d'autres ont travaillé et vous êtes rentrés dans leur travail. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme, « Il m'a dit tout ce que j'ai fait ». Aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le prièrent de rester auprès d'eux et il resta là 2 jours. Un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole et il disait à la femme, « Ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. » Voilà. Alors, ça nous situe dans notre méditation ce matin, et j'aimerais faire un préambule, parce que je crois qu'il y a toujours un contexte, et ce contexte est important, vous l'avez deviné, hein, le chapitre 4 de l'évangile de Jean, c'est bien cette belle histoire de cette rencontre entre Jésus et la Samaritaine. Alors, il faut rattacher ce paragraphe, ce que nous venons de lire, ce récit, des semeurs et des moissonneurs à l'expérience que cette femme samaritaine a fait lorsqu'elle va découvrir Jésus et où il va y avoir, eh bien, tout simplement, non seulement un échange, une conversation, un enseignement, mais plus que cela, tout cela va aboutir à une conversion. Cette femme va être complètement bouleversée de ce qu'un homme, un inconnu, va venir auprès d'elle et va lui dévoiler sa vie passée. Tout ce qu'elle a fait, tout ce qu'elle a pu, eh bien, vivre ou vivre dans son existence jusqu'alors, et ça va toucher particulièrement sa vie morale. Jésus, vous avez remarqué, ne lui dit pas les choses en la condamnant. Et ça, c'est important. On touche déjà tout simplement le ministère de la grâce. Il va pas lui dire « t'es une pauvre fille, t'as vu dans quel état tu t'es mis ? Tu vois la situation dans laquelle tu t'es réduite à la misère, mais une misère peut-être physique, je ne sais pas, mais en tous les cas une misère morale et affective, ça c'est sûr. » Et nous voyons que Jésus va poser des regards de compassion sur elle, parce que c'est une âme à sauver, parce que il y a là quelque part, certainement, elle le méconnaît elle-même, elle est dans l'ignorance, elle ne sait pas qui tellement elle est elle-même, mais Jésus y voit véritablement une belle âme à sauver. Et une âme qui ne sera pas seulement, eh bien, oui, sauvée pour elle-même, mais qui va contribuer Et nous le voyons à travers cette expression « les champs blanchissent », qui va contribuer à devenir une missionnaire, une évangéliste, quelque part autour d'elle, dans son pays, dans sa ville. Et là, on ne peut pas dire que ce sont des Juifs, hein. Ce sont tous des gens étrangers à la connaissance de Dieu, ou si peu de connaissances. Alors, elle découvre la foi, et elle découvre finalement celui qui lui donne la foi. Elle découvre Jésus d'abord, et de cette découverte de Jésus, de sa parole, de ce que Jésus va lui dire, si tu connaissais le don de Dieu, eh bien, cette femme va naître de nouveau, et dans son sillage, elle va entraîner un grand nombre de gens. Nous l'avons lu, hein, naturellement. Alors, le fruit de cette improbable rencontre aboutit à une moisson d'âme, comme suit, et je relis le passage, il nous est dit au verset 39, et je le reprends, « Plusieurs, dans un premier temps, plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus. » Ils l'ont cru à cause de la déclaration formelle de cette femme, c'est-à-dire qu'elle a rendu témoignage, et avec ce témoignage, eh bien, il s'est passé quelque chose. Ce témoignage, c'est une semence qui est répandue. Il tombe dans un cœur bon, dans un cœur honnête, selon les propos de Jésus dans une autre parabole, dans un cœur qui aspire à la vérité, qui sait très bien que toutes les facéties de la vie de cette femme ne peuvent pas lui apporter le bonheur. Mais il y a quelque chose de plus profond, c'est du superficiel de ce qu'elle a vécu jusqu'alors. Maintenant, Jésus lui propose, eh bien, la profondeur. Il lui propose une réalité au fond de son cœur, qui va transformer eh bien toute sa vie. Alors, depuis que tu as fait cette déclaration formelle, un grand nombre de Samaritains se sont rapprochés d'elle, parce que certainement qu'ils l'a méprisée auparavant, c'était une courtisane, peut-être occasionnelle, mais une courtisane quand même. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Alors, c'est une révélation. Elle est la première à vivre un bouleversement dans sa vie, mais ça va faire tache d'huile. Les autres vont aussi être bouleversés. Ainsi, quand les Samaritains vinrent retrouver Jésus, ils le prièrent de rester auprès d'eux. « Reste avec nous parce que le soir décline et nous avons besoin d'en savoir davantage sur toi. » C'est moi qui paraphrase. Et Jésus resta là 2 jours, et en 2 jours on peut dire beaucoup de choses. Un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole. Et ils sont venus voir la femme en lui disant « Mais tu sais, c'est pas à cause de ce que tu nous as dit, seulement que nous croyons. Car maintenant nous l'avons vu de nos yeux et nous savons. » Eh bien, qu'il est vraiment le sauveur du monde. Jésus à Samarie, une femme écoute les paroles de Jésus. Cette femme parle autour d'elle. Un grand nombre de gens vont croire. Mais il faut attendre, parce que ça prend du temps tout ça. Il faut attendre le livre des Actes et le chapitre 8 pour voir qu'à Samarie, il y a eu un réveil spirituel. Vous connaissez le texte? Quand Philippe est envoyé à Samarie. Oh, il va y avoir un petit peu de difficulté avec Simon le magicien, mais ça va être un souffle de l'esprit, ça va être un miracle extraordinaire, ça va être un réveil à ce moment-là. Des malades sont guéris, des paralytiques, des démons sont chassés, toutes sortes de choses. Excusez-moi, le don du Saint-Esprit va venir sur les hommes. Un réveil! Quand vous le voyez en prolongement, on se dit, ça part de pas grand-chose. Mais vous savez, je voudrais vous dire que tout dans la vie, dans cette existence, sur ce monde, part de pas grand-chose. Une graine, un embryon. Une graine, ça fait un champ de blé. Et puis un embryon, ça fait un homme. Ça fait toute la nature vivante qui est autour de nous. La semence. La semence. Mais il faut des moissonneurs. Alors on en parlera. Naturellement. Et Jésus d'expliquer à cette femme, tout simplement, et tous ceux qui l'écoutent, un mystérieux processus. Et Jésus pouvait dire, ben, si c'est moi, Jésus, si moi, Jésus, n'avais pas semé ou implanté ou ensemencé les cœurs dans cette humanité qui lui faisait face, un exemplaire de l'humanité, cette humanité perdue, eh bien, si ce n'était pas moi qui avais donné les quelques petites graines de sa parole, parce qu'elle est comparée à la semence aussi dans un autre passage, les graines de la vie divine, jamais aucun apôtre hier, jamais aucun apôtre dans l'histoire du christianisme, et jamais aucun disciple d'aujourd'hui que nous sommes, pourrions recueillir le fruit de la moisson des âmes. parce que tout a commencé avec Jésus. Il est à la fois le semeur et la semence, c'est la parole de Dieu. C'est dit simplement, mais c'est dit quand même, parce que finalement, eh bien, c'est ça l'origine de tout. La parole, ça nous remonte les temps des origines. Dieu dit, et la terre fut créée. La parole. Parole, la parole de vie. Il y a des précurseurs en toute situation. Il faut bien qu'il y ait des gens qui ouvrent la porte. Il faut bien qu'il y ait des gens qui défrichent le champ, retournent les pierres pour préparer à l'encensement. Faut-il qu'il y ait aussi eh bien des gens qui soient là en surveillance du champ, qui est endormi pendant un moment donné pour qu'à un moment donné tout explose et que là une graine en produise 100. Il y a des précurseurs, naturellement. Des hommes ont crié dans l'Ancien Testament, il vient bientôt le Messie. Jean-Baptiste a dit, mais il est tout prêt maintenant, relevez vos têtes. Puis il y a toujours comme cela. Dans une église constituée, il y a toujours eu un homme ou une famille implantée dans une ville qui a fait le semeur. Ah, il a peut-être pas vu grand-chose, mais il a semé pour une moisson dont on découvrira l'ampleur lorsque nous serons tous de l'autre côté. Je trouve que c'est formidable tout ça, c'est le principe de Dieu. De petit, ça ne devient pas grand, ça devient immense et infini. Alors, je reprends le verset 37, il est dit, « En ceci, ce qu'on dit est vrai, l'un sème et l'autre moissonne. Je vous ai envoyé moissonner et vous n'avez pas travaillé. » Ou vous n'avez pas travaillé. Et ça, c'est quelque part, peut-être quelque chose qui peut nous choquer parce que c'est injuste. Parce que quand on travaille, on aime bien avoir le résultat. Eh bien, figurez-vous que dans le royaume de Dieu, il y a des gens qui vont semer toute leur vie et qui ne verront pas les résultats ici-bas. Mais c'est comme ça. D'autres ont travaillé et vous êtes rentrés dans leur travail. Il y en a eu qui ont de la peine. Et vous, vous avez la joie parce que vous avez le bénéfice de ceux qui ont travaillé péniblement. Vous, vous avez, semble-t-il, pas fait grand-chose, mais vous réjouissez. Ça, c'est la ligne de vie de Dieu, en quelque sorte. C'est ainsi que les choses se passent. Et Jésus dira, mais encore 4 mois jusqu'à la moisson, c'est-à-dire de décembre à avril pour l'Orient. Parce que les accélérations, probablement des saisons là-bas, on sème en décembre, peut-être en novembre, peut-être, mais on va récolter en avril, si le temps est beau, si le temps est favorable. Et c'est en automne que nous semons, nous, en Occident, pour récolter au printemps, à la fin du printemps, début de l'été, tout juste. Parce que nous sommes dans des régions septentrionales. Vous comprenez, c'est un petit peu plus frais. Mais toujours est-il que ça pousse quand même. Ça pousse. Il y a peut-être qu'au pôle Nord et au pôle Sud que ça pousse pas. Mais bon, c'est autre chose. Ce sont pas des terres qui ont des vocations, finalement, de produire autre chose, certainement. Je reviens au verset 36. Il est dit cette parole, tout simplement, « Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse du fruit pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. » C'est très intéressant. « C'est de la joie, nous dit Jésus, de voir les champs blanchir. » Et quand les champs blanchissent, c'est parce qu'il y a des épis qui sont en train de mûrir. Forcément. La terre, en automne, la terre où marche le semeur, elle est brune, elle est détrempée. Ça nous donne des aspects de tristesse. Ça semble même sale en quelque sorte. Mais, à un moment donné, vous avez le blé en herbe. C'est tout vert, c'est beau. Ça fait un beau gazon, mais il ne faut pas le couper, parce qu'autrement, il n'y a pas la suite. Hein. Mais toujours est-il qu'après, ça va commencer à monter, ça va prendre de la hauteur, ça s'élève vers le ciel. Alors, moi je ne sais pas, je ne connais pas grand-chose en agriculture, mais il y a des épis qui peuvent être peut-être d'un mètre, hein, je ne sais pas. Toujours est-il que ça pousse, ça s'élève vers le ciel. Mais ici, précisément, quand les épis blanchissent, ici, la moisson est de nature spirituelle. Et c'est ça, il y a toujours cette transposition que nous avons dans les paraboles naturalistes, nous pourrions dire, de Jésus, qui nous parle des choses de la terre que nous comprenons bien, que nous exerçons, et c'est peut-être même notre métier. Mais il y a une autre dimension, parce que Jésus en va enseigner le ciel en prenant comme exemple les choses de la terre. Il n'y a rien de plus compréhensible pour les hommes, hein. Si c'était le contraire, on aurait peut-être du mal. Mais toujours est-il que c'est à notre portée de compréhension. Alors, c'est de nature spirituelle et le but à atteindre, c'est le salut. Le salut des âmes, des hommes, des femmes qui rencontrent Dieu, qui vont aimer Dieu, qui vont obéir à Dieu, qui vont servir Dieu. Plusieurs Samaritains, je reviens un petit peu, je fais un commentaire un peu en diagonale de tout ça, plusieurs Samaritains crurent à cause de la femme. Elle avait reçu un témoignage de Jésus, et d'elle, eh bien, les autres vont recevoir un témoignage qui parle de Jésus comme le Sauveur. Beaucoup plus grand nombre, après la suite, eh bien, crurent. Non pas en raison seulement de ce que la femme leur avait dit, mais de ce qu'ils avaient entendu et de ce qu'ils avaient vu eux-mêmes Jésus. Faut pas seulement l'entendre de d'autres. Il faut le voir nous-mêmes, l'entendre nous-mêmes et le croire nous-mêmes. On n'est pas sauvé par procuration, vous le savez. Mais néanmoins, ça fait partie de la filière. Aucun d'entre nous, nous ne serions là si, peut-être, un père, une mère, un grand-père, une grand-mère, un membre de la famille, ou peut-être un ami qui est devenu un ami parce qu'il était inconnu, nous a parlé de Jésus, et voilà. Voilà, la petite graine, elle a poussé, tout simplement. Je m'imagine que Dieu aurait pu faire autrement. Lui qui a créé le ciel et la terre, le firmament, les étoiles, les astres, jusqu'à l'infini, jusqu'à l'immensité de l'univers, il a voulu que ça passe de cette manière, vous rendez compte? Quelle sagesse qui nous parle d'humilité, de modestie, mais c'est un miracle. Une parole serait pu être autrement, naturellement. Nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vrai, diront ces gens de Samarie, et bien tout simplement à cette femme. Nous allons nous intéresser quelques instants et brièvement au semeur. Alors c'est une image bucolique que nous ne voyons plus maintenant parce que nous voyons plus que des engins agricoles énormes. L'ensemencement, c'est mécanisé, hein. C'est industrialisé. Quand on va dans les grandes plaines du bassin parisien, vous verrez un peu là au moment à l'automne, et puis alors quand on vient à la moisson, c'est encore autre chose, hein. C'est une autre façon, hein. Mais gardons un peu l'image, hein, cette image touchante de ce temps passé où l'homme était sur la terre, il se servait de ses pieds, il se servait de ses mains et il vivait avec le temps. Et le temps de son travail, c'était autre chose. Ça faisait pas de bruit en tous les cas. Donc, le semeur. Qu'est-ce que ce personnage pittoresque? D'abord, je voudrais vous dire que c'est une vocation. Oh, il y a peut-être un héritage. Le père, le grand-père, l'arrière-grand-père, l'ancêtre était peut-être semeur. Mais c'est une vocation. Parce que qui dit vocation, dit non pas seulement une dimension de considération intellectuelle, d'apprentissage, tout s'apprend. Mais quelque chose, finalement, qui, bien, mérite quelque chose de plus qu'un métier. Une vocation, je pense que je le rallierais plutôt à un appel et au cœur. Quelque chose de cette manière, vous comprenez? Parce qu'il y a dans le mot vocation dévouement à toute heure et en tout temps. Quelque chose où on aime ce que l'on fait, on aime les choses qui sont entre nos mains. Et puis, dans vocation, il y a un espoir, une espérance. Un métier, on produit. Et vous savez qu'on produit beaucoup en ce moment, hein. Et bien ou mal, de toute façon, pourvu qu'il y ait de la productivité et que ça rapporte. Mais une vocation, c'est que il y a là derrière peut-être une notion d'attention, attentif, et quelque chose que nous attendons, une espérance. Alors c'est une vocation. Et on pourrait peut-être dire que le semeur, c'est celui qui propage. C'est celui qui répand. Et vous allez voir que c'est un travail particulier. C'est un travail difficile, parce que premièrement, il va sortir dans des conditions de l'année qui ne sont pas les meilleures. Et puis, il faut marcher. Et puis, avant, il y a quand même un travail préalable. Il n'y a rien de plus difficile que celui qui enlève les pierres d'un champ pour qu'il devienne un terrain acceptable pour recevoir la semence. Ça, c'est dur, hein. Ouais. On le voit quand on va dans les montagnes, vous l'avez vu, dans tous les champs, dans tous les lopins de terre, là-bas, il y a des murets tout autour. Mais les pierres qui sont tout autour, c'était celles qui étaient dedans. On les appelle des pierres sèches, hein. Et imaginez-vous les générations pour faire, quelques arts de terrain pour pouvoir nourrir la famille et tout ça. Alors ça, c'est un travail difficile. Parce que être semeur, ça coûte. Et je vais vous dire pourquoi ça coûte. Parce que le semeur, il donne. Il a peu, il a une poignée de graines, mais il va pas les garder pour lui, hein, parce que s'il les garde pour lui, c'est fini, hein, ça va s'arrêter. Hein. Ça donne, c'est-à-dire que il le donne. Il y a la notion de don chez le semeur. Il donne. Et ça coûte. Parce que cette graine, cette semence, eh bien, elle lui a coûté quand même quelque chose de toute façon. C'est perdre en terre un semeur. Et il y a peut-être d'autres placements, mais tout autre placement en ce qui concerne une semence restera stérile. Et il faut que cette notion de terre que nous répugnons quelque part, parce que c'est pas le meilleur endroit, c'est pas l'endroit le plus propre, c'est pas l'endroit le plus favorable, mais il va donner à la terre. Et donner à la terre, c'est comme une mort. Oui. Et il y a une belle image que nous allons développer tout à l'heure. Il va abandonner à la terre. Ces graines, il les avait gardées dans son grenier pour le temps favorable. Il va aller les chercher parce que le temps propice pour semer est là. Il va les prendre. Si elles ne sont plus dans son grenier, c'est qu'elles sont en terre. Il les aura déposées. Donc, il n'aura plus rien de l'autre côté. Mais il l'a abandonné. Et il marche avec la foi, vous comprenez? Parce que il y a tellement d'impondérables qui vont arriver. Est-ce que ça va pousser? Est-ce que cette année, mon champ ne va pas être noyé, submergé? Est-ce que peut-être avec un hiver rigoureux, terriblement difficile, tout ça, ça va mourir? Eh bien, il y en a un qui veille, c'est Dieu, pour que ça ne meure pas, vous comprenez? Parce que le principe même de la graine, c'est la vie. Et Dieu va s'arranger dans tout ça. Alors, c'est perdre, c'est abandonner. Et puis, la saison de l'ensemencement, c'est l'automne. C'est dire l'automne, hein, je ne sais pas, on le vit comme un déclin quelque part, après les belles journées de l'été, du printemps naturellement, le rafraîchissement et l'été avec la chaleur. L'automne, c'est quelque chose qui... Il y a beaucoup de gens qui disent « moi, j'aime pas l'automne hein ». Une fois que les fruits sont partis, une fois qu'il n'y a plus de feuilles aux arbres, enfin, il y a une compensation parce que si les feuilles tombent aux arbres, en tous les cas, monsieur le percepteur, c'est à ce moment-là qu'il vous les envoie, les feuilles. Mais bon, toujours est-il que... Vous voyez, comme quoi, rien ne se perd. Hein. Mais toujours est-il que, voilà, c'est l'automne. Et l'automne, c'est le temps avant l'hiver où on se recroqueville, où on se met là un petit peu sur soi. Et puis c'est tout, où tout s'endort. On sait que, quelque part, on a le sentiment de l'inactivité. C'est vrai, dans la vie de la campagne, voilà, tout se met au calme. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Voilà. C'est une saison triste. Le ciel est sombre, il baisse. Une saison triste et ingrate. Et c'est pourtant propice. Vous voyez, c'est les contradictions de Dieu. C'est dans les moments où tout s'éteint, où la lumière disparaît, qu'il fait froid, qu'il fait sombre. Eh bien, c'est comme ça que Dieu parle. Et vous savez, je voudrais faire une petite note, hein. C'est souvent dans nos épreuves et dans nos difficultés que Dieu se prépare à nous montrer des choses extraordinaires. Ça s'arrête dans notre vie, on se dit, voilà, je suis malade, j'ai perdu mon travail, il y a ceci et cela, mais c'est peut-être à ce moment-là que nous sommes propices à sortir dans le champ de Dieu, et où Dieu nous dit, bien vas-y, continue à semer, sème ta foi, sème la graine, parce qu'elle va pousser. Et je m'adresse simplement ce matin à mes frères et mes sœurs qui sont peut-être en préoccupation avec des tristesses et toutes sortes de choses. Le printemps va revenir. Le printemps se prépare. Tenez bon. Vous allez quand même passer l'hiver, non? Les semailles, c'est oublier. Les semailles, c'est enfouir dans l'attente de quelque chose d'étonnant. Et cet étonnement, eh bien, écoutez, il nous est présenté par Jésus d'une manière... Je vais seulement lire le texte sans le commenter. Écoutez. Jésus dit encore, il est du royaume de Dieu comme quand un homme jette de la semence en terre. Qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe, croît sans qu'il sache comment. À moins d'avoir fait des études de botanique. Mais la terre produit d'elle-même. C'est formidable. C'est strictement naturel. Mais elle ne produit d'elle-même parce qu'il y a un principe spirituel au-dessus. Et nous y croyons. La terre produit d'elle-même, d'abord l'herbe, on en a parlé, l'herbe, puis le grain tout formé dans l'épi. Et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car la moisson est là. Et Jésus ajoute, « À quoi comparerons-nous le royaume de Dieu, ou par quelle parabole le représenterons-nous? Il est semblable à un grain de sénévé, la toute plus petite de toutes les graines, qui, lorsqu'on le sème en terre, est la plus petite de toutes les semences qui sont sur la terre, mais lorsqu'il a été semé, il monte, devient plus grand que tous les légumes, et pousse de grandes branches en sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter dans son ombre. La plus petite de toutes les graines devient un baobab. Vous en avez dans votre jardin, ça c'est courant ici. Hein. C'est énorme! C'est incroyable. D'ailleurs, le baobab, on croirait que les racines, finalement, sont en l'air. Vous avez remarqué un baobab? C'est un arbre qui a été planté à l'envers. C'est curieux, ça. Énorme! Vous avez vu les baobabs? Ah ouais, c'est vraiment étonnant, hein, pour ceux qui ont été un petit peu dans l'hémisphère sud, il y en a plein là-bas. Hein. Et c'est colossal. C'est vrai. Et on peut s'imaginer que c'était vraiment rien du tout. Hein. Vous pouviez le tenir là, dans le creux de votre main, hein, tout simplement. C'est pour nous montrer la progression infinie de Dieu, ce surnaturel de Dieu capable d'une petite chose, de faire des choses extraordinaires. L'enfouissement de la graine, dans une période difficile, l'ombre de l'hiver, voire même le crépuscule de l'année, la saison de l'année, et avec tous ces frimas qui sont là pour attaquer, qui sont là pour faire mourir finalement tout ce qu'il peut y avoir en surface de la terre, et en apparence, tout semble mort, mais de là va jaillir une nouvelle vie. Le principe spirituel est exactement le même. Nous voulons voir des résultats avant qu'ils soient, mais il faut faire confiance en Dieu, tout simplement. Et ça c'est vrai pour toutes les choses de notre existence, mais c'est vrai également pour les choses spirituelles, parce que si nous sommes là, notre intérêt, c'est pas tant les choses de la terre qui peuvent nous intéresser, hein, on n'est pas là pour mépriser, mais pour attendre de Dieu ce qu'il veut nous montrer et nous réjouir et nous enthousiasmer. Pour nous dire peut-être encore ceci, ne nous laissons pas affliger par les épreuves, par les difficultés, en disant sans cesse « je ne vois pas, je ne comprends pas ». Mes frères et sœurs, ne dites pas ça. Si vous connaissez pas le plan de Dieu, lui le connaît pour vous. Si vous ne voyez pas, c'est pas grave. En tous les cas, le Seigneur va faire et il va accélérer même le processus pour vous, dans la mesure où vous lui direz, Seigneur, même si je ne vois pas, je sais que tu sais, je sais que tu vois, et moi je me réjouis à l'avance de ce que tu vas faire. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Mais soyez joyeux, parce que quand on est triste, ben le diable en profite pour nous rendre encore plus tristes. Mais quand nous marchons dans la foi et que nous nous réjouissons des choses que nous ne voyons pas et que nous n'avons pas, eh bien nous réjouissons le cœur de Dieu et c'est là où Dieu va ouvrir les portes et ça va aller plus vite. Il va accélérer le processus. C'est pas vrai? Eh ben vous allez voir. Mais avant de voir, faut croire. Hein. Ça c'est sûr, c'est pas... Bon, on n'est que des hommes. Hein. Et pourquoi tout cela? Parce qu'il y a encore quelque chose que Jésus nous dit. C'est une véritable révélation ce qu'il nous dit. L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Qu'est-ce que ce sera la glorification de Jésus après son humiliation? L'humiliation de Christ, c'est la graine, petite graine, méprisable, on l'a méprisée, on l'a rejetée. Mais la glorification de Jésus, elle va pas seulement remplir la terre, elle va remplir l'univers entier, parce que tout a été fait pour lui. En vérité, dit-il, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il faut qu'il meure, en apparence, parce que il va y avoir un processus apparent de mort, mais il va y avoir le germe à l'intérieur qui, lui, va subsister. Alors, s'il ne tombe en terre et ne meurt, il reste seul, et ça ne sert à rien de rester seul. Un grain restera seul, il ne produira pas d'autre. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Et Jésus dit autre chose. Mais en tous les cas, on peut déjà se référer à ça. Le semeur est souvent un homme seul. Je voudrais vous faire une remarque. Quand on voit encore quelques semeurs, par-ci, par-là, ils sont rares, il est seul dans son champ. Il est solitaire. On va pas en mettre 36 dans les sillons. Ça ne sert à rien. Un, il est tout seul. Parce que c'est lui qui commence et c'est le moissonneur qui finit. Ouais. Il marche dans l'empreinte des pas de celui qui l'a précédé. Et on va le dire et on le redira, mais le semeur est seul dans ses sillons. Mais le moissonneur, quand il va arriver, ils seront peut-être 10, 20, 30 pour faire la moisson. Vous avez rarement vu des moissonneurs tout seuls. Hein. Donc il finit le moissonneur et il y a entre deux, entre le premier et le dernier, un cycle perpétuel de renouvellement. il y a une œuvre de Dieu invisible qui se fait. Le semeur donne le travail au moissonneur. C'est ce que nous avons lu. Il donne le travail au moissonneur. Qui, ce moissonneur, va lui en rendre une partie? Parce qu'il va y avoir le blé, qui va être transformé en nourriture, enfin bon, en farine ou en froment, etc. Mais il va en garder sur sa semence. De la semence récoltée à la saison dite, il va en garder une partie pour le redonner au semeur qui le mettra un temps dans son grenier et qui lui, la saison suivante, eh bien, va le remettre. C'est le cycle. Heureusement que ça s'arrête pas parce qu'on mourrait de faim. Tout simplement. Il rendra au semeur une partie pour ensemencer à nouveau, et ainsi de suite. C'est une magnifique complémentarité. On se donne la main d'association. L'Église, qu'est-ce que c'est? On se passe. On se passe les jalons. On se passe l'acquis. On se passe la nourriture. Moi, c'est ce que je fais, hein. Et c'est ce que vous faites vous aussi quand vous rendez témoignage. Vous passez la nourriture à celui qui va venir, que vous rencontrez. Le moissonneur, qui est-il? Qui est-il, ce moissonneur? Je dirais que c'est une vocation aussi. Et on va expliquer pourquoi. On va comparer. Le premier, qui est le semeur, ça lui coûte, on l'a dit, de donner. Il pourrait dire, moi j'aime bien ma petite graine, je la garde. Hein. Mais non, ça lui coûte de donner, d'abandonner. Le deuxième, ça rapporte. Il y a deux psychologies derrière ça. Il y en a un qui va abandonner, qui va donner. Et puis l'autre, quelque part, lui, il se frotte les mains parce qu'il va dire, quand il regarde auprès de son champ, il va dire, bientôt, je vais pouvoir y mettre la faucille. Alors lui, il se réjouit, vous comprenez? Il y en a un, c'est comme une tristesse, et l'autre, c'est de l'allégresse. Il y a de la peine pour le premier, il y a de la joie pour le second. Un des plus beaux psaumes, enfin, à mon sens, et qui fait du bien à tous les lecteurs qui s'y appliquent. Vous savez ce que je veux dire? Dans le psaume 126, écoutez, ceux qui sèment avec larmes, c'est une des caractéristiques du semeur. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec des chants d'allégresse. Quelle espérance! Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence. L'hiver arrive, le froid, les frimas, tout cela, ça parle de mort à l'automne. Eh bien, il revient avec allégresse quand il porte des gerbes. Mes frères et sœurs, que nous puissions avoir cette psychologie, que nous puissions, si c'est humain, mais que nous puissions avoir cette espérance dans nos cœurs, que c'est comme ça que ça fonctionne. Et cette conception de Dieu, du principe de Dieu, eh bien, ça fait des chrétiens heureux. D'accord? Des chrétiens heureux. Si je veux être triste, je peux être triste, je peux me donner toutes les raisons d'être triste. Vous rendez compte le monde, comment il fonctionne? Vous rendez compte un petit peu comment ça se passe aujourd'hui? Il n'y a jamais eu de gens autant sans travail. Il n'y a jamais eu autant de gens qui sont malades, des gens qui prennent des médicaments. Je peux me donner toutes les occasions et je peux engranger toutes les mauvaises nouvelles et je peux pleurer jour et nuit. Mais je peux faire aussi le contraire. Il y a une question de volonté. Seigneur, oriente ma volonté vers ce qui est positif. Nous avons la possibilité, les gens qui sont en dehors, qui n'ont pas d'expérience. Comment ils peuvent se débrouiller? Ils peuvent se débrouiller avec des maximes, avec des philosophies, avec toutes sortes de choses. Ou alors la tête dans le sable, comme l'autruche, en disant « Non, je veux pas voir, je veux pas voir, on fonce, on continue. » Mais nous avons quelque chose d'extraordinaire. Nous avons le Seigneur avec nous, et nous savons que nous avons tout pleinement en lui. Alors, peut-être qu'il y a certains qui sont tristes, mais nous prions pour que nos frères et sœurs qui sont tristes deviennent joyeux. Mais je vous le dis parce que moi j'ai passé des années dans la déprime. Je crois pas que ce soit le cas maintenant, par la grâce de Dieu. Et bon, le Seigneur m'a délivré pour pouvoir vous parler de tout ça aussi. Parce qu'on ne parle jamais si bien que par l'expérience qu'on en a faite. C'est pas de la théorie. Mais toujours est-il que les choses sont ainsi, tout simplement. Alors, on a cité le psaume 126. Et dans ce cas, le moissonneur, œuvre à la meilleure saison. L'un, c'est l'automne, c'est triste, et le moissonneur, il sort quand tout est gai, tout est en fleurs. Il fait la moisson avec des bouquets de fleurs, en quelque sorte. Il y a des coquelicots partout, ça c'est formidable. À la saison la plus agréable, la saison qui est chaude, la saison qui est ensoleillée, et la saison où le soleil paraît, finalement, le plus dans le courant de la journée. Il est dans de meilleures conditions, naturellement, hein. ce moissonneur. À la différence, le moissonneur est accompagné d'une foule de travailleurs alors que le premier est seul. Ils n'ont pas besoin d'être 36 dans le champ pour mettre les graines. Ce qu'il faut, c'est beaucoup de graines dans la main pour les semer. Par contre, il faudra beaucoup d'hommes qui mettront la main à la faucille pour ramasser toute cette production, parce que le grain qui était unique, il en a produit 100. Donc, vous multipliez, alors à ce moment-là, le travail du moissonneur est considérablement multiplié, mais ça lui fait plaisir, il est heureux, parce qu'il va y avoir une bonne récolte, naturellement. Et ça, c'est important. Mais néanmoins, les efforts sont partagés, compte tenu de l'abondance. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens dans les champs de moisson. Hier, un champ qui était vide, un champ qui était triste, de tout. Parce qu'une fois que la semence a été recouverte, ben ça, il n'y a plus tellement de... pas de beauté. Hein. Et aujourd'hui, le champ est plein. Il regorge de fruits et d'hommes. Malgré l'effort pour récolter, parce qu'il y a quand même un effort aussi pour manier la faucille. Hein. Vous, on voit les hommes en plein été, transpirent, hein. Ils s'arrêtent pour boire un petit peu parce qu'ils se mettent là à l'ombre sous une... Mais c'est pas tout à fait le même travail. Alors on s'aperçoit que les conditions sont tout autres. Et là, il y a de l'enthousiasme. Semer dans l'obscurité, mais moissonner dans la lumière. Et ça, c'est véritablement une autre chose. D'ailleurs, vous avez remarqué que dans toutes les sociétés et les civilisations, il y a des fêtes des récoltes, la fête des moissons. Aujourd'hui, ça se fait plus beaucoup, hein. Mais dans le temps, chaque village, chaque canton, dans même la France, dans notre pays, il y avait des fêtes partout, hein. Les fêtes des moissons. Et les gens se réjouissaient. Voilà, tout simplement. C'est le triomphe de la vie nouvelle qui éclaire en un principe complémentaire et sur lequel je vais quand même dire quelques mots, mais sans m'attarder. Et ça, vous le savez, c'est un homme qui n'était certainement pas ni semeur, ni agriculteur au sens naturel, mais qui était un formidable semeur parce qu'il était apôtre et un moissonneur pour le royaume de Dieu, c'est l'apôtre Paul. Et qu'est-ce qu'il nous dit, Paul, au chapitre 3 et au verset 5 à 8, il dit ces choses. Celui qui plante, je vais prendre un petit peu plus haut, tout simplement. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître, en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa récompense, sa propre récompense selon son propre travail. Dixit, travaillons en quantité, travaillons en qualité, en quantité si c'est possible, mais en tous les cas, la recherche et la qualité avant tout, car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Ça construit. Eh oui. Et cette parole de Paul dans 1 Corinthiens que nous venons de lire met en relief cette belle unité, la complémentarité des ouvriers dans l'unité. Nous ne sommes pas tous pasteurs, nous ne sommes pas tous apôtres, nous ne sommes pas tous évangéliques, docteurs et prophètes. Nous ne sommes pas tous avec les mêmes qualités et aptitudes dans l'œuvre de Dieu, les uns et les autres. Certains auront peut-être cette propension davantage dans la compassion à la prière pour les malheureux. D'autres seront peut-être des formidables prospecteurs. D'autres parleront avec une aisance qui viendra d'un don de Dieu, de l'Évangile. D'autres peut-être seront plus enclins à méditer la parole de Dieu pour en approfondir le sens. D'autres, eh bien, peut-être même dans des tâches tout à fait basiques et matérielles, mais qui sont nobles devant Dieu. Bien, lui dira, bien voilà, nous avons une salle. Moi, j'ai à cœur que cette salle soit propre. Et ceci, des réparations, toutes sortes de choses. Voilà. Chacun à son niveau. Chacun à son niveau. Mais même ceux qui servent aux tables, comme Philippe, peuvent devenir aussi de formidables évangélistes, hein. Vous connaissez les textes, hein, tout ça. Alors, il n'y en a pas un qui est plus grand que l'autre. Le pasteur, et je voudrais vous le dire, hein, peut-être que ça ne fera peut-être pas plaisir à mes collègues, mais le pasteur, il n'est pas plus que celui qui fait le ménage dans la salle, hein. C'est pas une question d'élévation personnelle, c'est une question de qualification et d'appel de Dieu. Dieu a départi ses dons comme il le veut, comme il l'entend. Et pourquoi ces jalousies? Et pourquoi cette concurrence? Et pourquoi en disant, mais celui-ci, il a ça et moi je l'ai pas? Le Seigneur a oublié dans la distribution, mais le Seigneur a oublié personne. Et tant qu'on restera peut-être à maugréer sur une situation que nous n'acceptons pas, eh ben nous allons rester très très longtemps malheureux. Et en disant merci Seigneur pour ce que je suis, même si je ne suis pas grand-chose, eh ben c'est le meilleur moyen pour grandir et pour avoir. On donnera à celui qui a, on notera même celui qui n'a pas. Et celui qui a refusé finalement de voir ce qu'il a. C'était le problème, parce que quand vous regardez le texte que je viens de vous lire, Paul dira avec beaucoup de sévérité et beaucoup de rigueur à l'église de Corinthe, mais dites donc, hein, les uns sont de Paul, les autres sont de Céphas, les autres sont d'Apollos, mais qu'est-ce que ça signifie tout cela? Encore heureux si nous sommes de Christ, hein. C'est déjà quand même pas mal, c'est l'essentiel. Si nous devons regarder à quelque chose, regardons au Seigneur et ne regardons pas aux autres. Et si nous regardons aux autres, regardons-les pour les bénir, et pas pour autre chose. Moi, il me semble que c'est l'enseignement. Il est parlé de planter, il est parlé d'arroser, il est parlé de récolter, naturellement. Et surtout, il ne faut pas oublier l'essentiel, Dieu qui est maître en tout et qui fait croître. On est heureux d'avoir des résultats dans ce que nous faisons. Mais dans tous les résultats que nous pouvons obtenir, les fruits, mais c'est encore Dieu qui est derrière. Vous vous rendez compte, ce monde ingrat, ce monde qui injurie Dieu, qui maudit Dieu, mais il n'a rien compris du tout. Rien compris du tout. Parce que tout vient du Seigneur. Tout est tenu par lui. Tout a été à l'origine en lui. Et tout retournera à lui. Que les chrétiens que nous sommes, puissions au moins considérer cette notion et de bénir le Seigneur. Dans les grandes comme dans les petites choses, naturellement. Parce que c'est Dieu qui fait vivre. C'est Dieu qui sauve. Et qui est symbolisé par cette belle confession de foi, quand nous l'avons lu tout à l'heure, au verset 23, quand il est dit ceci, mais je reprends un petit peu plus haut, « Mais l'heure vient où elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit, en vérité. » Et ce sont là que ce que Dieu attend, et ce qu'il demande. Et il dit un peu plus loin, la femme lui dit, « Je sais que tu es le Messie, que le Messie doit venir, qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. » Jésus lui dit, et il l'a dit non pas à un juif, mais il l'a dit à une païenne. « Je le suis, moi qui te parle. » Quelle belle confession. Elle, au moins, elle a su reconnaître les choses. Je finis. « Semeur, moissonneur, nous sommes ouvriers avec Dieu, nous l'avons lu. » Je dis bien, nous sommes ouvriers avec Dieu, et nous ne sommes pas ouvriers pour Dieu, parce que nous ne sommes pas des mercenaires. La chose différente, c'est que le mercenaire travaille pour un salaire, mais lorsque nous travaillons par amour pour le Seigneur, et ça change tout. Et le Seigneur nous le rend bien, de pouvoir le servir par amour. Et puis il y a la qualification de l'esprit. Oui, celui qui met la main dans qui met le pied dans le champ, dans les sillons, celui qui met la main à la faucille, c'est Dieu qui va nous perfectionner par son Saint-Esprit. Il y a plein d'enseignements autour de ça. Semeur moissonneur travaille au temps opportun, au temps de Dieu. C'est pas à contre-temps, naturellement. Voici, je vous le dis, dira Jésus à ses disciples, levez les yeux et regardez les champs qui blanchissent pour la moisson. Nous devons avoir une acuité spirituelle et un regard spirituel qui nous dit même à Saint-Nazaire. Redon, même dans notre région granitique de Bretagne, parce que là maintenant on va y aller, hein, en Bretagne, même tout cela, même s'il y a l'occultisme, même s'il y a des religions omniprésentes, même s'il y a ceci et cela, vous savez que de ce sol-là, le Seigneur est capable de faire sortir une moisson extraordinaire. Ne regardons pas aux chaises vides. Moi, je ne veux pas. Moi, je m'interdis. Hein. Moi, je vois toutes les chaises pleines. Vous avez le droit même d'en prendre deux, hein, si vous voulez. Pas vous allonger. Mais une chose qui est certaine, c'est qu'il y a quelque chose derrière tout cela. Parce que ça, c'est la foi. Et je voudrais vous communiquer que c'est formidable. Seigneur, ce que je ne vois pas, toi, tu le vois. Mais oui. Mais oui. C'est formidable. L'expérience que nous avons faite il y a quelque temps à Redon, où il n'y avait pratiquement plus personne il y a quelques années. Ben aujourd'hui, il n'y a plus de place. Et moi, je suis tout à fait, c'est un encouragement formidable. Parce que quelquefois, on entend les prières, et vous avez raison de prier, mais priez positivement en disant « Je te remercie, Seigneur, de ce qu'à Saint-Nazaire, toutes les places seront prises. » Et non pas de dire « Seigneur, tu regardes, il y a trop de places de vide. » Mais le Seigneur le sait qu'il y a des places de vide. Et tout dépend comment nous agissons dans la foi. Si nous agissons avec une foi positive, eh bien, il va faire. Autrement, il va falloir prendre du temps pour qu'il nous guérisse d'une vision qui n'est peut-être pas la sienne, celle de l'espérance. Alors, les champs sont blancs la moisson est prête. Un dénominateur commun, celui qui moissonne, reçoit un salaire et amasse du fruit pour la vie éternelle. Et celui qui sème et qui moissonne se réjouissent ensemble. Vous voyez, il y a toujours la notion de joie, naturellement. Peut-on parler de la joie de la foi, la joie de l'esprit? La Bible et le Nouveau Testament est plein de cette caractéristique qu'est la joie. Et le Saint-Esprit est appelé l'huile de joie. Si nous sommes remplis du Saint-Esprit, eh bien cette huile de joie va déborder, elle va naturellement. Et ça se réalise dans l'abondance des bénédictions divines et tout simplement la prodigalité de notre Dieu, tant sur le plan temporel pour notre vie de tous les jours que sur le plan spirituel. Le semeur, c'est bien Jésus. Les paraboles que nous trouvons nous montrent Jésus. Mais un Jésus incarné et un Jésus qui se révèle par sa parole vivante. Parler, c'est la semence, et elle va produire. Le moissonneur, c'est le Saint-Esprit. On sait que dans les derniers temps, ça sera les anges, mais c'est lui qui travaille. Moi, je ne vois pas quand il travaille, le Saint-Esprit, mais je suis sûr qu'il travaille. Et il travaille pourquoi? Parce que vous l'avez mandaté, vous lui avez demandé, vous avez prié le Père au nom de Jésus-Christ pour que le Saint-Esprit travaille. Il travaille. Ça se voit peut-être pas comme ça, mais moi, je suis sûr que sans arrêt, l'œuvre du Saint-Esprit s'opère. Hier soir, j'ai eu un coup de fil. J'ai pas pu avoir la personne au téléphone parce que je suis pas arrivé à temps. Mais elle me disait, voilà, je suis une dame, j'habite Saint-Nazaire, je suis dans une maison de retraite. Ça va vous encourager, vous allez voir. Je vous téléphone, je ne sais pas qui vous êtes. Monsieur, j'ai un numéro de téléphone et je téléphone comme ça, mais j'ai reçu quelque chose. Je suppose que c'est de votre part, enfin. Elle me dit, voilà, j'ai reçu un document qui s'appelle l'appel de la vie. Je ne sais pas comment il est venu, mais je l'ai. Je voudrais vous dire, monsieur, que j'ai fait la lecture et ça m'a bouleversé hier soir. Ça m'a bouleversé. Est-ce que je pourrais m'abonner? Alors je vais lui répondre, parce que c'est gratuit. C'était un article du mois de janvier dernier. Vous remarquez, je mets trop tard, janvier dernier. Alors bon, il était tard, je ne l'ai pas appelé, et puis je ne veux pas déranger les gens, mais lundi matin, je vais rappeler cette personne, je vais aller dans la maison de retraite. Et je lui ai apporté tous les exemplaires. non, tous les exemplaires, un de chaque. Naturellement, je peux pas venir. Et on va faire connaissance avec cette personne. Vous priez pour que le Seigneur envoie des âmes. Vous priez pour qu'il y ait la moisson. Mais regardez, c'est une petite graine. Mais moi, je crois que ce que vous faites, les frères et les sœurs, quand vous donnez des prospectus, quand vous donnez l'appel de la vie, quand vous donnez un petit papier d'une manière ou d'une autre, une simple parole agréable et qui peut encourager. Mais moi je dis, vous êtes en train de semer, et cette semence, elle ne restera pas stérile. Vous verrez dans le ciel, moi j'en suis convaincu. Je suis convaincu que dans le ciel, on aura des surprises. Bon, attendons, mais attendons avec espérance. Voilà, et c'est encore toujours Dieu qui est le principe de cette vie, de sa plénitude et de sa permanence. Je termine par un dernier verset qui m'est venu comme cela dans le livre des psaumes. C'est la journée, c'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Merci Seigneur pour les semeurs. Merci pour les moissonneurs. Et merci Seigneur parce que les champs blanchissent. Que Dieu nous bénisse ce matin. Voilà. À vos semences maintenant, et à la récolte. On va prier si vous voulez bien. Seigneur, je te rends grâce et je te remercie parce que nous voulons tous être des communicateurs d'une force de vie, d'une force de joie et de bonheur dans un monde où il y a une terrible tristesse. Et c'est vrai, Seigneur, nous ne pouvons pas le nier, mais la tristesse, elle est liée au mal, elle est liée au péché. Elle est liée à la rupture entre la créature et son créateur. Et pourtant, ce créateur s'est présenté à travers Jésus-Christ comme un sauveur, comme un rédempteur, comme celui qui apporte la joie, afin que votre joie soit parfaite. Seigneur, si nous marchons, en effet, dans un champ, dans l'obscurité, avec des apparences de vide, néanmoins nous jetons la semence. Et nous te bénissons et nous te rendons grâce, parce que l'hiver vient, parce qu'il y aura des épreuves, parce qu'il y aura des difficultés, mais renaîtra bientôt la lumière, la chaleur et le printemps. qui fera lever la semence. C'est en cela, Seigneur, que nous te bénissons et nous te remercions. Donne-nous une vision renouvelée des choses. Donne-nous de vivre pleinement l'espérance de l'Évangile, en sachant que nous sommes tous complémentaires, que nous nous donnons la main les autres d'association, que nous devons nous aimer, Seigneur, pour que ce soit véritablement une moisson d'amour. Alors nous te bénissons et nous te rendons grâce, parce que si les chrétiens s'aiment entre eux, eh bien à ce moment-là, les gens qui sont à l'extérieur verront cet amour de Dieu manifesté pour chacun et à travers chacun. Merci, Seigneur, de ce que tu es le semeur. Merci, Seigneur, pour l'œuvre du Saint-Esprit qui travaille dans l'invisible, comme ce principe de la graine qui est jetée en terre. Et merci pour toi, notre Dieu, notre Père pour nous, plus particulièrement, parce que c'est toi qui donnes la vie. Merci, Jésus.
Amen. Amen.
Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.